Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jackie Hadouche. Il a tué trois fois, à la fin des années 90 et au début des années 2000, une vieille dame, un professeur et un jeune caméraman. Pourquoi ? Eh bien, on ne le saura jamais. Il n'a jamais voulu s'expliquer. En était-il capable ? Ça n'est pas sûr. Et d'ailleurs, il n'a jamais vraiment assumé ce qu'il a fait. Sur les trois meurtres, il n'en a reconnu qu'un, et encore du bout des lèvres. Mais sur le pourquoi, il est resté muet. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre de lui, puisqu'il est mort. Très peu de temps après sa dernière condamnation. Mais vous verrez que dans son histoire, il y a la trace d'une explication. Jackie Hadouche a vécu à l'âge de 16 ans un traumatisme majeur. Une expérience intime dont, en principe, on ne se remet pas. Ça ne l'excuse pas, mais c'est la seule explication qu'il nous est laissée. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est une histoire très décousue. Une histoire sans queue ni tête, des meurtres qui ne se ressemblent pas, pourtant commis par un seul homme. Lui-même, très décousu, absolument incapable de dire pourquoi il a tué trois fois. Aujourd'hui, c'est l'été. Nous sommes le 21 juin 2002 à Beauvais, dans l'Oise. Et Léo Capon doit garder son petit-fils et elle est en retard. La mère qui doit aller bosser essaye de l'appeler. Elle tombe sur son répondeur. Maman ? Maman, c'est moi, c'est Daniel. Je t'appelle au cas où t'aurais pas vu l'heure. Il est presque 3h30. Faudrait que j'aille bosser. Et Jérémy t'attend. Tu tardes pas ? Mais le temps passe et Léo, la mamie, n'est toujours pas là. Bon, écoute mon chéri, tu restes là sagement. Allez, t'as le droit de regarder la télé. Je vais chercher mamie. Je reviens dans 5 minutes, d'accord ? Le foyer où habite la mamie est tout près. Et quand elle arrive en bas, sa fille voit que chez sa mère, la fenêtre est grande ouverte. Elle monte, elle sonne, pas de réponse. Elle descend voir le gardien, elle veut lui demander la clé, il est occupé. Alors elle remonte et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est ouvert. La porte n'est pas fermée à clé. Alors elle entre. Maman ? Maman, tu es là ? Dans l'appartement, c'est le souk intégral, un capharnaüm. Mais ce qui l'inquiète tout de suite, ce sont les traces de sang sur le sol. Elle les suit jusqu'aux toilettes.
Oh, maman ! Oh !
Sa mère est couchée sur le dos, la jupe relevée. Il y a du sang partout. Elle a été égorgée. Un instant, Daniel se dit que peut-être elle n'est pas morte. Alors elle se penche, elle prend son pouls. Elle est morte. Les policiers de Beauvais arrivent dans la foulée. Madame, pardon de vous poser cette question, mais est-ce que vous pensez qu'on lui a volé quelque chose ? Daniel fouille l'appartement de sa mère. Elle trouve son porte-monnaie. Il y a un peu d'argent dedans. Non, on lui a rien volé.
Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui vole à ma mère ? Elle n'avait rien, ma mère.
Eh ben si, on lui a volé quelque chose. Les placards de la cuisine sont vides, totalement vides. Il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de conserve, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. On l'aurait égorgé pour lui voler de la vaisselle et un paquet de pâtes et une boîte de biscuits. Au milieu du bazar, les policiers trouvent un sac poubelle près de la porte. Ils l'ouvrent.
Ça appartenait à votre mère, tout ça ?
Daniel regarde. C'est la vaisselle. La vaisselle de sa mère, en vrac, dans le sac poubelle. Près du corps, les policiers trouvent aussi un couteau.
Et ça, là, le couteau, c'est à elle ?
Ah non, ça n'est pas à elle. C'est un couteau de chasse, un couteau à gibier, très tranchant. Est-ce que ça serait l'arme du crime? C'est l'APJ de Creil qui récupère l'enquête. Elle procède à des relevés d'empreintes, digitales et génétiques. Elle prend des photos et elle commence par aller voir les voisins. Classique. Léo Capon vivait dans un foyer social, 300 locataires, et donc autant de suspects. Mais l'avantage de ce genre d'établissement, c'est qu'il y a des caméras dans le hall et dans les couloirs. Alors les policiers visionnent les vidéos de la soirée. Et vers 19h, l'une des caméras filme un homme qui entre dans l'immeuble. Elle filme le même homme qui ressort de l'immeuble 2 heures plus tard, avec des sacs poubelles à la main. C'est lui, c'est notre homme. Malheureusement, la caméra est installée un peu haut, les images ne sont pas de très bonne qualité, on ne voit pas son visage. Mais c'est lui, c'est sûr. Le lendemain, le médecin légiste confirme que Léo Capon, 73 ans, a été égorgé avec un couteau. Est-ce que c'est avec le couteau qu'on a retrouvé sur place? Possible, mais pas sûr. Le couteau a été nettoyé, il n'y a aucune trace, ni de sang, ni aucun ADN dessus. Voilà comment ça commence. De la bande vidéo, les policiers tirent une photo. On ne voit pas son visage, mais on voit au moins une corpulence, une silhouette. Quand il arrive, il est tête nue, il a le crâne dégarni. Quand il repart, il a une casquette. Les flics montrent la photo aux 300 occupants du foyer.
Bonjour, c'est la police judiciaire. Vous pouvez regarder cette photo? Ça vous dit quelque chose? Vous reconnaissez quelqu'un?
Non. Personne ne reconnaît personne. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Dans ce genre de foyer, il passe beaucoup de monde. Les policiers explorent aussi la piste de la famille. Mais pas longtemps, Léo Capon était originaire d'Amiens. Passé 70 ans, elle avait voulu se rapprocher de sa fille et de son petit-fils. Elle avait emménagé à Beauvais. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas d'héritage en jeu. Ah, important, on a retrouvé un ADN sur la scène de crime. Un ADN masculin. Malheureusement, on l'a passé au fichier, il ne correspond à aucun ADN en stock. C'est assez rageant parce que on a affaire à un type qui commet beaucoup de fautes, qui laisse son ADN, qui se fait filmer par une caméra, mais ça n'avance à rien. La guigne. Voilà une enquête qui est mal barrée. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire, que les policiers, bien sûr, ne vont pas relier tout de suite à la précédente. Et pourtant, cette histoire se déroule quelques semaines plus tard, loin de Beauvais, à Saint-Étienne, dans la Loire. C'est l'histoire d'un papa qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils Sylvain. Sylvain Rome, 32 ans, caméraman de profession. Il appelle les pompiers, ils enfoncent la porte de son appartement et ils trouvent Sylvain, mort, en caleçon sur son lit, couché sur le ventre, dans un état de putréfaction avancé. L'appartement est en ordre, il n'y a pas de traces d'effraction, la vaisselle est faite, ça fait penser à un suicide. Mais il manque son portable et il manque son chéquier. Les suicidés se débarrassent rarement de leur portable avant de se suicider. Mais la piste du suicide est vite abandonnée quand on reçoit les premiers résultats de l'autopsie. Ça n'était pas évident sur le corps putréfié, mais Sylvain Rome a été tué à coups de couteau. Il a dû se débattre, il a des traces sur les bras. Mais il y a mieux que ça. On a trouvé du Lexomil dans son estomac, un anxiolytique, et pas mal d'alcool dans son sang, 1,45 g. Et ça, alcool plus Lexomil, ça veut dire que quand il a été tué, Sylvain était dans le potage. Alors est-ce que Sylvain était dépressif? Est-ce qu'il était sujet à des angoisses? Eh ben non. Les policiers interrogent ses copains, et notamment un certain Lucien.
Vous me dites que c'était le 15 juillet? Ah ben je l'ai vu ce jour-là.
Où ça? Chez lui? Non, non. On s'est vu dans un bar, un endroit où on va tout le temps. Ça s'appelle l'endroit. Je pense que je suis arrivé vers 14h. Il était là, au comptoir. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le bar? Ah ouais, ouais. Il y avait un type que je connaissais pas, justement. J'ai parlé vite fait avec lui. Il m'a dit qu'il était informaticien. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que 2 minutes après, je l'ai entendu dire au barman qu'il était kiné. Bref, je me suis dit, c'est un gars bizarre. Mais c'est vrai que ce gars bizarre, il a parlé à Sylvain. Et Lucien, ensuite, quitte le bar l'endroit. Mais le serveur raconte la suite. Ils ont parlé boulot. Et le type bizarre a dit à Sylvain, dont je rappelle qu'il était caméraman, qu'il connaissait du monde dans l'audiovisuel. Le serveur dit qu'ils sont partis tous les deux, ensemble. Il était environ 4 heures. Grâce à un ticket de caisse trouvé dans l'appartement, les policiers savent qu'ensuite, Sylvain est allé dans une petite épicerie. Il a acheté une bouteille de whisky et du Coca-Cola. Le type était avec lui. On peut donc supposer qu'après, ils sont allés se faire un petit apéro, tous les deux, chez Sylvain. Vers 5 heures, un autre copain de Sylvain, David, raconte qu'il vient sonner. Et là, c'était bizarre. Je l'ai senti embarrassé à l'interphone. Il m'a dit qu'il était occupé. Il n'a pas voulu que je monte. Étrange. Le premier copain, Lucien, qui l'a vu au bistrot, est prié de décrire dans le détail le type bizarre, l'informaticien kinésithérapeute. Il est brun, légèrement dégarni. Je dirais de type nord-africain. Il porte des lunettes. Il présente bien, hein, il s'exprime bien. Les policiers dressent son portrait robot. Mais ça n'amène à rien. L'enquête sur le meurtre de Sylvain Rome débouche, elle aussi, sur une impasse. C'est une troisième affaire qui va débloquer les deux enquêtes. Et là, retour à Beauvais, dans l'Oise, quelques semaines plus tard, le 13 septembre, dans le quartier Argentine. Une vieille dame, Liliane Michaud, 82 ans, rentre de son Intermarché avec son déambulateur. Et juste devant chez elle, un homme la bouscule, il la frappe au visage, il la fait tomber au sol, il lui vole son porte-monnaie et il s'enfuit. Liliane appelle la police et par le plus grand des hasards, arrive un policier qui était déjà intervenu 3 mois plus tôt dans l'enquête sur le meurtre de Léo Capon. Et quand il voit la sauvagerie des coups portés au visage de Liliane, il fait tout de suite le rapprochement. « Vous sauriez le reconnaître, cet homme, Madame Michaud ?»«
Ah, ça, pour sûr. Je l'ai bien vu. Et même quand j'étais à terre, j'ai fait un effort pour me relever. Et j'ai bien regardé sa tête. »
35-40 ans, brun, crâne dégarni. Les policiers filent tout de suite à l'Intermarché, en se disant « il l'a suivi, peut-être que quelqu'un l'a vu et l'a reconnu ». Quand ils font au vigile la description de l'agresseur de Liliane, ils ont tout de suite un nom à proposer.
« Ça serait pas Adouche ? Jackie Adouche. Il sort de prison. Il vient souvent. »
Les flics passent le nom au fichier. Jackie Adouche, 38 ans, a déjà ce qu'on appelle un joli palmarès. 6 ans de tôle pour vol avec violence, il est sorti il y a 7 mois. Et avant de voler, il fourguait des médicaments à ses victimes. Intéressant. Il a aussi été condamné pour viol collectif quand il était mineur, à 17 ans. Et c'est un ancien toxico. Alors, où est-ce qu'il est, Jackie Adouche? Les vigiles de l'Intermarché appellent pour dire qu'ils viennent de le croiser, près d'un magasin. Les policiers déboulent à toute berzingue, ils le filochent, ils le photographient de loin, et puis il disparaît. Jackie Adouche, leur suspect numéro 1, s'est volatilisé. Et il réapparaît 3 jours plus tard. Mais très loin de Beauvais, il réapparaît à Nîmes, dans le Gard. Et une fois de plus, au lieu de se faire discret, il se fait remarquer. Il casse une vitre à la gare. Un vigile l'aperçoit, il prévient une patrouille de police, le type est arrêté un peu plus loin, planqué entre 2 voitures. Il est bourré comme un coin, alors les policiers le collent en cellule de dégrisement et ils attendent le lendemain matin pour l'interroger.
Alors, nom, prénom, adresse, profession, je vous écoute. Je m'appelle Saïd Adouche. Je suis kinésithérapeute.
Le flic qui l'interroge le trouve nerveux. Trop nerveux, finalement, pour un type qui n'a fait que casser un carreau à la gare. Alors il prend ses empreintes digitales et il les passe au fichier. Hé hé,
il est recherché par la police judiciaire de Creil pour un meurtre. Et c'est pas Saïd Adouche qui s'appelle, mais Jackie Adouche. Les flics ni moi appellent tout de suite leur collègue de Beauvais. Et Adouche est transféré dans l'Oise dans la journée. Et pendant qu'il est en route, les flics de la PJ de Creil vont chez lui pour une perquisition. Et ils tombent sur de la vaisselle et sur du linge qu'il montre à la fille de Madame Capon.
Ah ben je les reconnais. Ce coussin, il est de chez ma mère. Il y en avait deux, l'autre est toujours là-bas, je crois. Et puis ça, c'est son dessus de lit. Ah oui, je suis sûr.
Alors dès qu'Adouche se retrouve en garde à vue, on lui pose la question.
Monsieur Adouche, ce dessus de lit là, ce coussin et puis ces casseroles, elles sont à vous, monsieur Adouche? Ah ben oui. Ah, c'est Frédéric, le voisin. Il me les a donnés.
Alors ils vont voir tout de suite le voisin généreux. Il n'a jamais rien donné. En revanche, au mois de juin, il a bien vu Adouche rentrer chez lui un soir, avec des sacs poubelles, pleins de vaisselle et pleins de linge. Mieux, il avait une grande tache de sang sur son imperméable. Les flics lui montrent la vidéo de l'Intermarché.
Je vous préviens, l'image est pas bonne. Mais comme vous le connaissez bien, peut-être que vous allez pouvoir nous dire si c'est lui ou pas.
Le voisin le reconnaît formellement. Et donc la juge d'instruction, à la fin de la garde à vue, le met en examen pour le meurtre de Léo Capon et l'agression de Liliane Michaud à la sortie de l'Intermarché. On lui a présenté l'oiseau, elle l'a reconnu à 100%. Vous noterez que pour l'instant, ils ne font pas du tout le lien avec le meurtre de Sylvain Rome à Saint-Étienne. Ça viendra plus tard. Mais maintenant, il faut que je vous dise qui est ce Jackie Adouche. Ce type qui aurait tué Léo Capon pour un oreiller, un dessus de lit et une batterie de casseroles usagées. Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas à l'excuser. Mais quand vous saurez d'où il vient, alors vous vous direz peut-être que voilà un type qu'on avait comme programmé pour tuer. Jackie Adouche est un fils de Harki. Son père était soldat dans l'armée française en Algérie. À l'indépendance en 62, il a choisi la France et il s'est installé à Beauvais. Jackie est né 2 ans plus tard, troisième d'une fratrie de 12 enfants. Le père trouve un emploi d'ouvrier et il se met à picoler. Et quand il est bourré, il est violent. Il frappe sa femme, et il frappe les gamins, et il menace en permanence de les tuer. Il dit des trucs comme
« Ah ben je vais vous construire 12 cercueils, et puis vous mettre dedans. T'as de bon à rien !»
Du coup, à l'école, Jackie est en permanence à côté de ses pompes. Il est agressif, il est impulsif. À 15 ans, le juge des enfants le place dans un centre. Mais Jackie fait des fugues et il revient régulièrement chez lui. Et c'est là qu'à l'âge de 16 ans, il va vivre une scène extrêmement traumatisante. La mère annonce qu'elle veut divorcer. Le père pète les plombs, il attrape un fusil et devant Jackie, il se tire une balle dans la tête. Jackie est à 1 mètre de lui, il a du sang partout, le sang de son père, et son père s'effondre dans ses bras. Dans ses bras, à 16 ans. Et après, que voulez-vous? Il se met à déconner. Il participe à un viol collectif à 17 ans. Il signe des vols avec violence. Et vous connaissez la suite. Voilà. Voilà qui est le type qui a tué Léo Capon pour un coussin, un dessus de lit et une batterie de casserole. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, je pense que vous ne découvrez pas que la plupart des grands tueurs, et c'est un grand tueur, on tue des enfances fracassées. Et oui, comment croire que Jackie Adouche tue pour la première fois en 2002? Est-ce qu'il a tué avant? Les policiers de Creil ressortent tous les vieux dossiers non résolus, les fameux cold cases. Et ils tombent sur une affaire de 1992, 10 ans plus tôt, dans laquelle ils s'aperçoivent qu'Adouche a été soupçonné et placé en garde à vue, et interrogé, et puis finalement relâché. La mort d'un professeur du lycée de Beauvais qui s'appelait Gilles Canette. Son corps est découvert le 1er décembre 92 par sa femme de ménage chez lui. L'autopsie révèle la présence dans son corps d'alcool et de tertian, un puissant neuroleptique utilisé en psychiatrie. Au début, on pense à un suicide, jusqu'à ce qu'on découvre que le soir de sa mort, on a retiré 1800 francs sur son compte en banque. Et du coup, la scientifique passe l'appartement du professeur au peigne fin et elle trouve une empreinte digitale. Et c'est celle de Jackie Hadouche. Alors on le place en garde à vue, on l'interroge. Il dit qu'il est allé chez Gilles Canette, qu'il le connaissait, mais qu'il n'est pour rien dans sa mort. Il dit que le jour du meurtre, il était à Paris, il était chez une amie, chez Chloé. Laquelle Chloé confirme l'alibi. Alors on le remet en cellule de garde à vue, et dans la soirée, il se taillade les veines avec un briquet. On l'emmène à l'hôpital et on en reste là. La mort de Gilles Canette reste non élucidée. Et du coup, 10 ans plus tard, eh bien, on réouvre le dossier. On fait revenir la fameuse Chloé. Elle reconnaît qu'elle a menti. Jackie Hadouche n'était pas chez elle, à Paris, le jour où Gilles Canette est mort. Et un meurtre de plus sur le dos de Jackie Hadouche. Et en fouillant comme ça dans les vieux dossiers non élucidés, on trouve aussi d'autres affaires. Un viol sur une femme de Beauvais, une tentative de viol sur une autre femme à Boulogne-sur-Mer. L'ardoise s'allonge. La juge d'instruction fait alors diffuser une circulaire dans toute la France. Elle demande qu'on lui remonte tous les dossiers non résolus qui pourraient coller avec le profil de Jackie Hadouche. Et au passage, elle joint une photo de l'oiseau. Et c'est là que le commissariat de Saint-Étienne se réveille et ressort le dossier de l'assassinat du jeune Sylvain Rome. Vous vous souvenez, le caméraman qu'on avait retrouvé en caleçon en état de décomposition avancée sur son lit. L'après-midi de sa mort, il avait rencontré dans un bar un brun au crâne dégarni. Et si c'était Jackie Hadouche ? On découvre d'abord que Hadouche a de la famille à Saint-Étienne. Alors on fouille dans ses relevés téléphoniques. Et le 15 juillet 2002, le jour où Sylvain Rome est tué, Hadouche est à Saint-Étienne, dans le quartier de Sylvain Rome. Alors on fait venir Hadouche à Saint-Étienne, on le présente au copain de Sylvain Rome, celui qui a vu Sylvain avec un type bizarre au bistrot, vous vous souvenez ? Il le reconnaît tout de suite. Interrogé pourtant, Hadouche nie. Mais il est mis en examen et un meurtre de plus. Ça fait 3. Jackie Hadouche serait donc un tueur en série. Un serial killer. Enfin, un tueur en série potentiel, parce que maintenant, il faut le juger. Le premier procès concerne l'affaire de Saint-Étienne, le meurtre de Sylvain Rome. Il s'ouvre en avril 2006. Quand Hadouche débarque dans le box, il est complètement groggy. En prison, on le bourre de cachetons pour le calmer. Et il passe tout le procès à dire « c'est pas moi, je n'ai pas tué Sylvain Rome ». Mais la preuve qu'il ne convainc pas beaucoup, à la fin, les jurés le condamnent à 30 ans de prison assortis de 20 ans de sûreté. Il fait appel. Mais finalement, il renonce à son appel comme quelqu'un qui a compris que ça ne servait à rien. 2 ans plus tard, en avril 2008, le voilà devant la cour d'assises de Beauvais pour le meurtre de Gilles Canette et pour le meurtre de Léo Capon, mais aussi pour un viol et une tentative de viol. Et là encore, dans le box, il est complètement stone. Pendant tout le procès, il nie. Il n'a rien fait, il n'y est pour rien. Mais là encore, les jurés ne le croient pas et ils le condamnent à perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la peine maximum. Mais là encore, il fait appel. Il est donc rejugé en mars 2009 devant la cour d'assises d'Amiens. La veille du procès, la présidente le fait venir dans son bureau. Ça n'est pas systématique, hein, ça, mais ça arrive. Elle veut lui expliquer comment elle voit le procès. Et là, pendant cet entretien, elle sent Kadouche est prête à parler. Il lui laisse entendre que, peut-être, cette fois-ci, il va dire des choses. Alors le lendemain, quand il arrive dans le box, groggy, comme les autres fois, la présidente, qui s'appelle Isabelle Serin, lui demande d'entrer « Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?» Hadouche s'approche du micro.
« Oui, le meurtre de Madame Capon, c'est moi. J'ai fait une connerie. »
Sur le banc des parties civiles, la famille de Léo Capon se dit « Ça y est, on va savoir pourquoi. » Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Il ne donnera pas de détails, il ne dira pas pourquoi. Il avait beaucoup bu, il dit qu'il s'en est pris à elle, par hasard. « J'ai fait une connerie. » Contentez-vous de ça. Et pour le meurtre de Gilles Canette, alors? Là, c'est toujours non, ça n'est pas lui. Évidemment, au cours de ce procès, on parle de son enfance. Deux de ses frères viennent raconter le père alcoolique et violent, le suicide devant eux, le père mort qui tombe dans les bras de Jackie. Le délibéré dure 3 heures et Jackie Hadouche est condamné pour les 2 meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, comme en première instance. Quelques mois plus tard, Jackie Hadouche décède dans sa cellule de la prison de Fresnes. Hémorragie cérébrale. Il avait 45 ans. Il avait passé 25 ans de sa vie derrière les barreaux.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.